Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
Si la poesía no vi ayuda a vivir, allora fate un'altra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something.
L'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique, jusqu'à 22h sur Radio Clapas.
21h.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une émission présentée par Yves Flanck et Michel Arbat s'est consacrée à la vie des poètes. Avec, au gré des émissions, les voix de Claude Maurice, Charo Beltran, Florence Mourieras, Cécile Combredet, Marc Pastor, Patrick Vendrin, Didier Mailleux, Marc Na, Julien Guil, Yves Flanck et Philippe Goudard.
Et Jean-Claude César.
Et ça se passe tous les premiers et troisièmes mardis de chaque mois. Bonsoir, nous voilà pour la seconde fois en compagnie de André Ardelet, poète français du XXe siècle, voilà, de 1911, commençant à se faire marquer, jusqu'à 1973. On l'a laissé juste après-guerre dans ses débuts d'écrivain. Il va donc il est à la fois dans le fourmillement et l'excitation de l'après-guerre, et il va commencer à publier. Il est publié d'abord par Pierre Segers. Il a, en fait, je crois que de toute sa vie, il a toujours été, il n'a jamais publié auto-édition, il a tout de suite été publié, même s'il avait un roman refusé au début. Et il va se mettre, comme on l'a déjà signalé, sur l'incitation de René Fallet à écrire Le Seuil du Jardin, qui est son premier roman, enfin son second plutôt, et le premier à être publié. Alors bon, le Seuil du Jardin, c'est un petit peu le condensé de tous les talents d'Ardelet, à la fois comme poète, comme obsédé aussi par la question du rêve, puisqu'il dit ailleurs, nous sommes toujours en train de vivre un futur qui a déjà existé. Il s'intéresse beaucoup d'ailleurs à la question de... il lit les ouvrages, j'ai oublié son nom, c'est Régnier de Saint-Denis, voilà, cet homme de la fin du 18e qui s'est passionné dès son plus jeune âge, je crois que dès 12 ans, ce personnage a essayé de conduire ses propres rêves. Et il écrit un traité sur la façon dont on peut influencer le déroulement de ses propres rêves, quoi. Ardelet se passionne aussi pour Jung, pour la psychanalyse, pour tous les spiritualistes qui essayent de trouver des marques de l'esprit et les correspondances entre ce monde et un monde invisible, mais à travers des choses très concrètes, hein, à travers... dans Le Seuil du Jardin, il y a ce personnage très étrange de chercheur qui fabrique une machine à restimuler les rêves et les souvenirs chrétiens, oui.
Mais quelque peu avant Le Seuil du Jardin, c'était La Cité Mongole, un recueil de poésie, et c'est également Segers qui lui permet de l'éditer.
Absolument. Ouais. Et puis, je corrige aussi une petite erreur de la dernière émission. Avant Béard, il y a Germaine Montero, puisqu'on l'a entendu, qui avait commencé à mettre des textes... Enfin, c'est plutôt Christiane Verger qui a mis en musique des textes qui sont chantés par Germaine Montero. Et c'est après seulement que viendra la rencontre avec Béard. Donc, le roman Le Seuil du Jardin est publié par Julliard, qui est quand même un très gros éditeur à l'époque. Et je crois que c'est un de ses succès. Ceci dit... comme il le dit lui-même, je n'ai pas la citation sous les yeux, mais il dit « Je viens de faire les comptes de mes ventes, 1020 exemplaires du Seuil du Jardin et 200 exemplaires de la Cité Mongole ». Il dit « Quelle réussite extraordinaire !» Il a toujours un regard assez, voilà, assez ironique sur le monde de l'édition. On va peut-être passer directement à ses textes. « Black and White ».«
Perpendicule va faire ronron ». Qui est un texte d'ailleurs peut-être le seul où on voit apparaître la guerre et peut-être une opinion sur la guerre. Trompant les anges de service aux portes des bouges secrets, un pèlerins parfois se glissent pour voir flamber la nuit de près. Quand les soldats de plomb se couchent pour que la chambre change d'aspect, c'est pour que la chambre débouche sur des tableaux plutôt suspects. La cathédrale de verre, l'assassinat bleu de la fée, se commet près de Nuremberg au cri de la neige étouffée. Mais la Morgane ressuscite en un Bagdad particulier où la confusion se pratique pour le plaisir des initiés. Par une porte de sortie, l'égout mène chez le marquis, la fillette crie sous l'ortie, un peu de sang tache les buis. Le pèlerin rentre bredouille, après n'avoir vu que du feu, mais pour d'autres la rosée mouille les salades de la banlieue. L'aube pose sur leur poubelle une aubépine de clarté, et la méfiance en sentinelle met l'arme au cran de sûreté. La rue sonne quand vacillent les faux semblants. Pris dans la brume, un clairon sonne au loin pour la rose des vents.
Lorsque j'ai entrepris mes premières explorations de Paris, cette de sa banlieue, vers 16 ou 17 ans, j'en ai connu un aspect qui me laisse maintenant rêveur, en proie au regret. Déjà, mon peu d'estime pour les basiliques et les arcs de triomphe me poussait vers des quartiers où je me trouvais de plein pied avec une vie sans artifice et dépourvue de pompe. La Seine au point du jour ou à Bercy, Ménilmontant, Belleville, le canal Saint-Martin et celui de l'Ourcq, le vieux Montmartre, les fortifications, les buttes Morel, les voies du chemin de fer de la Ceinture, les tanneries du fer à moulin, les fourrages de la Grange aux Belles. Plus que tout, m'envoûtaient ces territoires, le terme de zone désignait avec une prudente imprécision. Sur ces terrains, au plus haut point vague, quelque chose était resté indéterminé, hésitant entre l'usine, les petits pavillons et les jardinets. Sur ces espaces prenait naissance une certaine forme qui peut devenir celle précédant toute création poétique. Ces endroits requéraient de moi une réponse que je ne songeais pas alors à formuler, mais dont je ne pouvais méconnaître le caractère personnel et inéluctable. Plus tard, j'ai compris que c'est par là qu'est née ma petite musique. L'hommage que je rends à ces zones disparues acquitte une dette de reconnaissance, et je suppose bien n'être pas le seul à en avoir contracté de semblables. Entre la métaphore poétique et les trouvailles de la langue populaire, qui est essentiellement parisienne, il n'existe aucune solution de continuité. J'ai depuis trop longtemps traîné mes guêtres et mon oreille dans les rues de Paris pour garder le moindre doute à ce sujet. Ce sens du raccourci et de l'image percutante s'exerce à des niveaux différents, voilà tout. Si le poète écrit, le chauffeur de taxi se contente de la parole. Dire d'une jeune fille qui vient de mourir qu'elle a refermé son ombrelle, utile au temps où l'on en portait encore, était désavoué par un mal armé? Et l'inconnu qui inventa marcher à côté de ses pompes pour railler doucement un individu détaché du réel, n'a-t-il pas eu un petit éclair de génie linguistique? D'accord, celui-ci et celui-là feront un usage différent de leurs dons, mais le lecteur, la correspondance saisie au vol, le rapprochement neuf, demeure identique. Le poète de Paris n'oubliera pas la leçon en plein vent.
Les muses du quai de Bercy m'avaient conduit jusqu'à Grenelle et leur sœur de la Grange aux Belles vers les jardins clos de Passy. La nuit s'entendait avec elles, les muses du quai de Bercy. J'allais dans Paris, port de songe, ouvert aux piétons d'octambule, avec des amis de toujours, embarqués vers le crépuscule et disparus au point du jour. J'allais dans Paris, port de songe. Rétif, Nerval, Apollinaire, Léon-Paul Fargue qui me montriez le chemin, abordez-vous les lendemains rayonnants sur les îles claires, Rétif, Nerval, Apollinaire. Dehors, la nuit me parle bas, et je sens tomber ses pétales sur tous les bonheurs inconnus qui fusent au ciel quand s'exhale le délirant plaisir des filles. Dehors, la nuit me parle bas. Plus tard, et le jour est en route, je me retrouve à la Villette. Ces grands seigneurs en tablier, tachés de sang, cassent la croûte avec quelques garçons laitiers. Plus tard, et le jour est en route. Seul, les yeux fixés sur son verre, un gars taciturne au comptoir. Il me ressemble comme un frère, et je connais son désespoir. Aux heures blêmes du regret, seul, les yeux fixés sur son verre. Oh, vous, nos amis de toujours, embarqués vers le crépuscule et disparus au point du jour, quand viendra l'heure à la pendule, priez pour nous, pour nos amours. Ô vous, nos amis de toujours. L'aube va chasser le silence, rassemblant ces oiseaux de feutre. Maintenant la ville apparaît, et voici demain qui commence entre deux nuits et leurs secrets. L'aube va chasser le silence.
New Orleans, à Boris Vian in memoriam. Ella Fitzgerald, sortie d'un buisson et d'un pan de sa robe, balaya toute ordure. On entendait un peu le bruit de la mer dans les lointains coquillages, mais ce n'était sans doute que des mains qui marquaient le rythme. Elle chanta une chanson qu'un Allemand n'avait pas encore composée, Mack the Knife. Elle-même n'était pas née à cette époque. Les Antilles ont offert leur vanille, leur calebasse, Jelly Roll, Boris, Sidney, Papa Picou sont entrés en piste. On s'est aimé dans Perdido. C'était un samedi soir, et comme un éclat de couchant frappait un trombone anonyme, New Orleans s'embrasa d'un seul trait. Jusqu'au faubourg, ça battait à la cadence exacte et unanime de vieilles valises, des tôles ondulées, des mirlitons, n'importe quoi. Les hanches, d'instinct, épousaient la courbe créole. Elle est sortie d'une touffe de gardénia dans le jardin royal. Le roulement lointain ressemblait à l'inépuisable batterie du sable manié par la mer et le vent. Un sacré samedi d'avant les défendus de Verboten, Forbidden. Un samedi qui aurait pu durer sans fin dans les épices, le rythme et la joie partagée, si vous ne l'aviez détruit de vos mains, bande de cons.
We'd love, we too.
La ville avait saigné ses coqs chanteurs d'aube aux crêtes d'ardoise. Rien ne grinçait plus, rien ne grinçait plus sur les docks baignant dans une paix sournoise. Vieux paquebots déboussolés, entrepôts et douanes sans porte, ferrailles ou tramways rouillés, bitume de quelle mer morte. Dans le bar de Nelly Holland, des verres qu'on n'avait pas bu offraient leur citron et leur ambre à de providentiels intrus. Sans qu'un écho se répercute, tous les pick-up s'étaient éteints. Peut-être à la même minute, sur la nuit du dernier surin. À chaque porte, je frappais, réclamant une ombre en chômage, et sans me rappeler jamais ni ton vrai nom, ni ton visage. Quand soudain, le soleil a lui jusqu'au lointain des lauriers roses. J'étais redevenu celui qui sait le prix de toute chose. Le vieux port s'est remis à vivre. Soudain les coqs neufs ont crié. J'étais comme un matelot ivre retrouvant le sol sous ses pieds. Dans le bar de Nelly Holland, ils ont écarté les rideaux. Et les ombres de contrebande ont repris place dans leur peau. Quelques-uns m'ont offert à boire, m'ont dit « Te voilà revenu !» Mais sous leur masque provisoire, je ne les ai pas reconnus. Je suis reparti, l'étranger, vers les miradors de l'enfance, vers le jeudi des orangers, le blond Y en fer de lance. et je cherche la halte verte qui sommeillait dans les lauriers. J'ai tout le poids d'un monde inerte à traîner avec mes souliers. Mais toi, dans le mur de l'impasse, si par hasard tu te souviens, ouvre au mauvais œil qui se lasse l'arc-en-ciel du portail ancien.
Voilà, donc c'était un texte d'André Ardelet, extrait de La Cité Mongole, son recueil, je crois que c'est l'unique d'ailleurs, non, c'est qu'on peut dire quoi, le texte, le premier, la première anthologie poétique publiée de lui, c'était L'Interdit de séjour. On pourrait d'ailleurs en profiter pour donner quelques titres qui sont assez facilement trouvables en librairie. Donc il y a La Cité Mongole qui est dans la collection Poésie Gallimard. Il y a également
Les Chasseurs,
qui comprend d'ailleurs deux recueils, Les Chasseurs 1 et Les Chasseurs 2, qui étaient publiés séparément de son vivant.
L'Imaginaire Gallimard.
Oui, voilà, c'est dans L'Imaginaire Gallimard qu'on trouve à la fois Les Chasseurs, Lourde Lente et Le Seuil du Jardin, hein, et puis Le Parc des Archers, hein, fait signe Christian, toujours dans L'Imaginaire. Et puis, il y avait... Alors après, c'est très difficile de trouver. Il y a quelques études qui ont été publiées, mais quasiment aucune biographie, ce qui explique d'ailleurs un peu que nous soyons un peu secs parfois. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quant aux détails concrets de la vie d'Ardelet. Sinon, que quand même, donc on l'a laissé donc là, dans le milieu des années 50, après la parution du Seuil du Jardin. Ce livre, Le Seuil du Jardin... provoque l'admiration d'André Breton, qui l'écrit d'ailleurs à André Ardelet, oui. Hein, et ils vont se rencontrer assez souvent. Il va publier aussi un autre recueil qui s'appelle Sommeil chez Seguer. C'est pour ça qu'en général, quand on parle de la Cité Mongole, c'est une sorte d'anthologie plusieurs recueils à la fois. Il y a Le Luisant et la Sorgue, Sommeil, enfin tout est retrouvé. Compilé dans ce recueil, voilà. Et puis donc Le Parc des Archers, il va le publier dans les années 60 aussi, chez Julliard, je crois, voilà. Ensuite, il y a deux événements marquants aussi dans la fin de ces années 50. C'est, pardon Christian,
oui, tu évoquais André Breton. Juste petit aparté à ce sujet pour dire que André Ardelet de fait n'a jamais participé aux activités régulières du groupe surréaliste. Il est resté en marge de ce groupe, hein, constamment, malgré l'admiration de Breton, malgré cette admiration réciproque, puisqu'à la mort de Breton, il écrira un article pour le Canard Enchaîné. Seule participation de fait, un petit texte intitulé Le Savant dans la revue Bief, qui était une des revues surréalistes de l'époque. Voilà.
Voilà. De toute façon, le groupe surréaliste n'était plus ce qu'il a... Enfin, c'était dans les années 60, donc c'était une sorte de queue de comète, un peu.
Exactement.
Ça n'a rien à voir avec le groupe brillant et jeune des années 20 à 30.
Mais ce qui pouvait le rapprocher, c'était aussi tout son travail sur les rêves, à partir des rêves.
Oui. Voilà, c'est surtout ça, oui, en quoi ils étaient très proches. Donc, il va y avoir aussi quand même un événement marquant, là, sur un plan personnel, c'est la mort de ses parents, hein, puisqu'il meurt, je crois, à un an ou à deux ans de distance, sa mère d'abord, puis son père d'abord, puis sa mère. Et alors, ce qui est frappant quand même, ce qu'on ne l'a peut-être pas dit, c'est que André Ardelet vit avec ses parents, enfin, dans le même appartement que ses parents, au 44 rue de Beaubourg, et qu'il va rester dans cet appartement jusqu'à la fin de sa vie, quoi.
Et à propos de sa mère, il a eu cette phrase, hein. Depuis la mort de maman, ma vie n'a plus jamais eu la même couleur.
Exact, oui. C'est ce qu'il dit, je crois, dans une lettre à André Hicken.
Tout à fait.
Voilà. Et il correspond avec beaucoup de gens. Il correspond avec Breton, il correspond avec Claude Seignolle, il correspond évidemment avec René Fallet. C'est un grand épistolier aussi, on peut le dire. Malheureusement, enfin, on ne peut trouver ces correspondances que dans la grosse édition assez coûteuse et volumineuse que Gallimard a fait. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a quand même des œuvres complètes qui sont publiées chez Gallimard dans des trois gros volumes reliés.
Il rencontre Jean-Jacques Pauvert également. Hein.
Voilà, alors ça, c'est une rencontre très, très importante, qui est même décisive, puisque Pauvert va devenir, je crois, son éditeur exclusif jusqu'à la fin.
Hein,
jusqu'à la fin. On va peut-être retourner au texte, tout simplement. Ou peut-être un peu de musique, puisqu'on a rendu hommage à Boris Vian tout à l'heure.
À la Villette.
Et à la Villette aussi, et à ses joyeux bouchers, dont quelques gouttes de sang se retrouvaient dans le poème lu par Yvon et par Joël.
Tous à la Villette.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires royales puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme hack. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crève, les copains prendront la relève, et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Il suffit. Il suffit de biffer un matricule sur les registres des assurances sociales et de prévenir les croque-morts. Il suffit d'effacer un prénom sur l'étiquette d'une rose clouée par l'été. Il suffit de dormir pour revoir les pupitres tailladés à coups de canif et le soleil inondant l'école vide un jeudi. Il suffit de regarder le fil de sable coulant dans le sablier. Il suffit de porter un masque. Il suffit d'être seul, sans juge ni loi, pour s'infliger à soi-même la peine que l'on mérite. Et plus tard, il suffit de renverser le sablier.
Fiche de police. Il y avait ton cœur fermé, ton cœur ouvert, ton cœur de feu couvert, tes cheveux pour filer entre les doigts, pour verser leur sable sur mon sommeil et pour enchanter la fatigue, tes cheveux comme un treillage entre le regard et les vignes qui flambent, tes cheveux de luisant et de sorgue, tes yeux avec la halte à l'ombre et la colonne de froid sur le puits, tes yeux, les anémones ouvertes dans la mer, tes yeux pour plonger droit dans les Vaucluses et dérober leurs paillettes aux fontaines, tes yeux sur les averses qui volent sur les ardoises, tes bras pour les bras tendus, pour le geste cueillant le linge qui sèche, pour tenir la moisson de toile contre ta poitrine, pour maintenir la maison de souvenirs contre le vent, tes bras pour touiller les bassines de confiture, tes seins, les dunes d'un beau soir, tes seins pour les paumes calleuses au retour du travail. Mais sais-tu les meules qui se prêtent, se creusent quand il faut le repos? Sais-tu le nez dans les sources d'herbe quand la marinière trempe de buée sa chanson? Tes seins pour bander, tes mains, pavots qui apprivoisent l'insomnie, tes mains pour les mains nouées, les promesses scellées, tes mains pour tendre les tartines, tes mains pour toucher ton amour, tes hanches comme la péniche pleine, comme l'amphore épousée par les doigts de haut en bas, ton ventre pour les tabliers bleus du matin et les gaines soyeuses des minuits de luxe, ton ventre la pleine joie de la pleine mer, ton ventre de houle, tes cuisses de Flandre, ton sillage de carène heureuse et de menthe volée, ton odeur de servante jeune et de pain bis, ton odeur de vachère et de jachère en avril, ton odeur de renoir et d'auberge calme, ta peau de santé, le slalom nègre sur la pente des étés, tes robes de flotte au large et de voile enceinte, tes robes de bouquet aux crayons de couleur sur un vieux cahier d'école, tes robes en dimanche, tes robes de bonjour, tes matinées au lit comme une nage facile par la grande baie des fougères, ton envie comme une salve qui salue la rade où brûlent mille rochelles et l'argent des avirons, et te voici dressé, planté sur ton plaisir et qui délire, ton envie, le suc qui éclate de la figue mûre, ta voix venue des châteaux en Bavière, ta voix qui étonne les légendes dissimulées, ta bouche pour dire oui, ta salive à boire, ton sourire d'enfance retrouvé. Il y avait ce plus secret de toi, ce blond de toi épanoui, l'étoile de mer encore humide entre deux désirs. Il y avait ton attente, la première permission du soldat à la guerre, ton souvenir, et c'est la pluie qui bat tiède contre les volets clos de la mémoire ton souvenir a inventé, mais jamais toi tenue certaine au midi du bonheur, et pourtant quelques-uns t'ont vu en plein jour, ont laissé ton portrait à travers leur toile ou derrière leur poème. Tu es plus vieille que la peine du monde et plus neuve que la joie de vivre. C'est toi que les hommes ont toujours voulu dans leur fin de tendresse, au bout des jours, au bout des routes, celle qu'ils ont appelée la veille de la chaise électrique ou de peloton d'exécution, pour qui tous ont trahi leurs plus franches paroles et tenu leurs plus dérisoires serments. Celle qui embrassait trop tard les gars punis avant la fosse commune ou les croix de bois. Il me reste à te donner un nom, à te donner vie. Il me reste surtout à te rencontrer, comme les mains émerveillées de l'aveugle trouvent la présence du soleil sur un pan de mur.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie d'André Ardelet, dont Patrick vient de dire fiche de police. Donc André Ardelet arrive dans des années où il est, on va dire, relativement bien reconnu, même si son lectorat reste confidentiel. Il va même commencer à faire... quelqu'un propose, je crois, de mettre le Seuil du Jardin, de faire un film du Seuil du Jardin. Hein. Il obtient d'ailleurs une avance du CNC pour le faire. On parle de Polanski même comme metteur en scène. On parle aussi d'Henri Colpi. Et finalement, ça n'est ni l'un ni l'autre, je crois, mais un metteur en scène beaucoup moins connu qui va mettre en scène et adapter, et pas du tout au goût d'ailleurs.
Ça sera une grande déception.
Grande déception dans sa vie. Il va prendre ses distances par rapport au film. Il le dit d'ailleurs publiquement. Enfin, on entendra d'ailleurs tout à l'heure dans une autre partie de l'interview que nous a accordée Agathe Fallet, bon, sa réaction par rapport à ça. Et puis, il y a aussi autre chose d'important, c'est qu'après avoir rencontré Jean-Jacques Pauvert, il va publier Lourdes Lentes, donc ce roman dans lequel il fait allusion pour la première fois à la rencontre avec Germaine, voilà.
Et sa nourrice,
et aussi son initiatrice, c'est plutôt son initiatrice que sa nourrice, je crois qu'elle est simplement, oui.
Et c'est 1969.
Et c'est en 1969, année érotique, comme chacun le sait. Et c'est assez curieux parce qu'il publie ce texte sous le pseudonyme de Steve Masson, qu'on a rencontré dans beaucoup de textes ici et qui est une sorte d'alter ego. Enfin, c'est sa signature avérée, quoi. Tout le monde sait que Steve Masson, c'est un avatar d'André Ardelet. Mais et à ce moment-là, personne ne réagit. Alors que, on va le voir vers la fin de l'émission, ce roman va lui coûter très cher et va être la raison, enfin, de tas de déboires avec la justice. Donc, alors je lis moi dans ma biographie et je regrette beaucoup qu'on n'ait pas pu l'entendre avant de faire cette émission. Il réalise un entretien avec Jacques Chancel à Radioscopie à France Inter, ce qui est quand même pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très grand public. Et puis il y a effectivement après Germaine Montero et après Patachou qui ont chanté ses chansons, il y a Guy Béard qui fait un tabac avec Balle chez Temporel, qui est un texte d'André Ardelet. C'est toujours un peu l'ironie du sort qui fait qu'un grand écrivain est plus connu par quelque chose qui est certes très agréable à entendre, mais qui n'est pas peut-être l'essentiel de sa production. Voilà. On va peut-être d'ailleurs écouter tout de suite Balle chez Temporel.
tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. D'une rencontre au bord de l'eau ne reste que quatre initiales et deux cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos vingt carats qui depuis se sont fait la paire. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelque je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé et pour que tu le reconnaisses. Tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre. Pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre.
C'était trois artilleurs d'Ivry qui s'en allaient au bois de Vincennes. C'était trois artilleurs d'Ivry qui avaient la permission de minuit. Et trois filles de Maison Alfort qui partaient voir pousser la mousse aux environs du parc Saint-Maur. On est bien mieux vivant que mort. Les artilleurs chantaient en ut pour célébrer l'art difficile de placer un coup droit au but dans n'importe quel azimut. Les demoiselles précipitées, sages depuis bientôt trois semaines, avec quelques soupçons d'acné et des yeux pères pendant l'été. Les soldats se sont arrêtés. Ah, quelle funeste imprudence! Les soldats se sont arrêtés à boire du pouilly fumé. Les filles les ont imités pour regarder des mini-jupes à la vitrine d'un ferblantier qui avait changé de métier. Ils auraient pu se rencontrer, les artilleurs, les demoiselles, et peut-être même s'aimer sous les arcades de l'été. Mais le hasard mène nos pas de ci, de là, où bon lui semble. Le hasard qui mène nos pas fit qu'ils ne se rencontrèrent pas. Ils n'auraient pas dû s'arrêter à boire un coup de mini-jupe et bigler du pouilly fumé à l'étalage d'un ferblantier. Mais s'ils avaient continué, ne s'étant jamais vus d'avance, à marcher chacun de leur côté, rien peut-être n'aurait changé. L'amour attend d'être cueilli, trois par trois, au bois de Vincennes. Vincennes qui est un joli pays, à quelques bornes de Paris.
L'oisive, elle vient du mat, du sourd, de l'inerte. Elle s'évade des noyaux, elle vient des fougères, écrites sur le minerai, des armoires secrètes, du tribunal des taupes. Elle vient des palais sales, des rames fourvoyées sur les voies interdites du métro, des égouts où se déroulent crédules passants, balais et ferries. Elle quitte les tuves où 93 marats exsangues gisent, un bras ballant dans leur baignoire. Elle éclot rose bulle de la vase. Elle vient du fin fond du lin, du fil sucé par une jeune fille, des armoires cadenassées par un doigt sur les lèvres d'une servante. Elle vient des voyelles inconnues, elle sort du bal de chez Freud, des décombres de Mabille, elle vient d'un déversoir barricadé par les ronces et l'ombre, des moulins d'amont, elle bouge dans le profond, Elle sourd du presbytère désaffecté, elle se glisse par la trappe du cellier, elle passe dans l'haleine des jeunes faneuses emperlées de sueur. Elle vient des carillons qui s'attardent, des travées entre les épis, des ruches à midi. Parfois les bûcherons l'entendent rire, faibles dans la futaie, et lâchent leur cognée. Elle s'échappe des mains disjointes sur les criquets, les hannetons, quelques minutes avant l'orage. Elle affleure dans la mare, qu'observe un enfant accroupi. Elle monte de 20 000 lieues sous les mers dans une lumière de Jules Verne. Il fusille, quel albatros, éblouissant innocent. De mars en mars, elle grimpe aux échelles des giboulées, ou bien, l'oisive, elle chevauche une bulle, muse parmi les lentilles d'eau, s'épanouit, gobe un peu de surface. Dans le ressac, elle se pare de perles, des coffres d'hommes, étrangères sans pesanteur. Elle a quelque chose d'essentiel à me communiquer chaque nuit. Elle frappe aux vitres de ma conscience. Comme je ne réponds jamais, assez vite elle s'en va, vers de plus prompt que des ruptus sur le lac éphémère à notre hauteur.
Le plus beau mot de la langue française, avec loisir, est le mot « con ». Le con. Ton con. Montre-moi ton con, Germaine. Dégage-le bien avec tes doigts. Écarte-le, ton con. Les grandes lèvres, les petites lèvres, tes lèvres, ton baiser, ton con, le seul un con. Les mots, les images se dégradent avec le temps et l'habitude, c'est une question d'innocence retrouvée. Et si le terme « innocence » vous incline à ricaner, sachez que je vous emmerde. Encore faut-il avoir envie de réanimer le pouvoir primitif et magique des mots. « Con » provoque toujours chez moi le même choc dès que je parviens à l'entendre réellement, hors de son contexte. Le « con », je m'en pourlèche. Le « con » de Germaine, de Marie-Échène, de Vanessa, de Yaël, à chacun le sien, avec son parfum, son galbe, son sel, sa dentelle. Je voudrais que des types trapus, des ethnologues, des linguistes, m'expliquent pourquoi ces trois lettres sont devenues le symbole de la, de notre stupidité, ces trois lettres de la grande cérémonie. Sacré con vous-même.
31 ans avant sa mort. Hein.
Voilà. Et donc ça a été un choc, je pense.
Correctionnel, on était tous dans la salle. Oui, René avait fait une pétition qu'il a fait signer, c'est pas des lettres, hein, il a fait signer une pétition par tout ce que Paris comptait de célébrités. Hein.
Ça paraît fou.
C'est René qui avait rédigé la pétition. Ah oui. Ouais. C'était Pompidou, hein. L'amoureux des poètes.
Poète-poète,
oui, comme tu dis.
Il était marié, ce Ardelais ?
Non.
Il n'a pas eu de descendance non plus ?
Non.
Ah, d'accord.
Il a laissé ce qu'il avait. Et en tout cas, il a une ayant droit qui s'appelle Sim Marty. C'était une amie intime, Sim.
D'accord.
Oui. C'était pas sa maîtresse.
D'accord.
Hein. C'était une amie.
C'était une amie. C'est un personnage. C'est pour ça que quand je dis il est secret quand même. C'est
ben voilà, il existe quand même une personne qui peut aussi vous, qui pourrait également vous parler de lui, mais qui n'y tient pas. D'ailleurs, je lui ai demandé si elle voulait. Elle m'a dit non. Elle est très bien. Hein, elle est tout à fait en bonne santé, mais elle tient pas. Elle a toujours peur, et je la comprends qu'on lui pose des questions un peu trop indiscrètes.
Et physiquement, il était comment physiquement ?
Il était bien. Il avait été très beau, jeune. Évidemment, moi, je l'ai connu. Il était de 11, j'ai connu en 55, 44 ans. Il était pourtant pas vieux, mais pour moi, qui en avait 15, évidemment, je trouvais qu'il était un peu âgé. D'ailleurs, tout le monde l'appelait le Vecchio. Lui-même s'appelait le Vecchio à cause de Bartali. Parce qu'en plus, il adorait le cyclisme. Ah bah oui. René, ça l'aurait enchanté. S'il avait eu ce genre de procès, il aurait été ravi. Ah ben oui. Mais Ardelais, comme étant un grand bourgeois, il se disait, mais si papa et maman étaient toujours là, vivants, voilà. C'était la honte. J'aurais été chassé de chez moi. C'était... Enfin,
il avait quand même écrit ce qu'il avait écrit. Enfin,
tout à fait, et il le revendiquait d'ailleurs. Il était extrêmement courageux, même si pour lui ça a été une très très grosse honte qu'on puisse, pour son œuvre, l'accuser de telle turpitude. Lui, il ne voyait pas le péché là-dedans, pas du tout. Eh bien, il était quand même très digne, il était très droit, il était très courageux.
C'est l'éducation aussi, bourgeoise.
Toute éducation. Puis enfin, c'était quelqu'un qui était imposant, hein, quand on le voyait. Moi, je l'ai vu. Il y a eu un petit court-métrage qui a été fait sur une nouvelle de lui qui s'appelait « Le tueur de vieilles ». C'est pas très rigolo.
Avec Gainsbourg.
Hein, avec Gainsbourg.
L'effaceur.
Oui. Et c'est assez formidable. Et moi, je l'ai vu à une projection, parlant avec le metteur en scène d'ailleurs, auquel il s'est substitué très vite. Et bien, je vous assure, et avec le producteur, je vous assure qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Ah non, non, il n'était pas. C'était pas un petit garçon. C'est pas du tout, du tout, du tout. Il savait très bien ce qu'il valait, il savait très bien ce qu'il voulait. C'était quelqu'un qui avait quand même une forte personnalité. Hein. C'était rare, quelqu'un hein. qui était en dehors du métier. Mm-hmm. Il n'avait pas besoin de ça pour vivre. Donc, il avait les moyens de dire déjà vous ce
film. C'est formidable en même temps.
Non, je ne trouve pas ça formidable.
D'avoir la liberté de dire qu'un truc nous correspond.
C'est formidable d'avoir la liberté.
Non, mais d'après ce que je vous entends dire, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne correspond pas au schéma classique du poète maudit qui crève de faim.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est pas le
pauvre. Il aurait peut-être bien voulu.
C'est pas le pauvre Toussenot qui était obligé d'être chez les chocolats.
Mais je vais te dire, nous, on n'avait pas un rond avec René, vraiment, ce qui s'appelle pas un rond. Et Ardelais nous emmenait de temps en temps chez Boffinger. Ah. Alors là, je te dis pas, c'était le bonheur absolu. Non, il était très généreux, en plus. Il était très, très généreux, Ardelais.
Il a quand même toujours été édité, depuis le début. Il n'a jamais fait des choses à compte d'auteur, ni rien du tout.
Non, jamais. On a tout le temps reconnu son éditeur. C'est Gers, d'abord, c'est Gers.
Ah, d'accord.
Après Pauvert. Mm-hmm. Accessoirement, Régine Desforges, et puis son roman, c'est chez Julliard, hein, je crois. C'est Julliard.
Voilà, donc c'était, comme vous avez deviné, un extrait de l'interview que nous a accordé Agathe Fallet. La voix qu'on reconnaît, l'autre voix féminine, c'est Jeannine Marc-Pezet, grâce à qui d'ailleurs nous avons pu rencontrer Agathe Fallet. Et évidemment, les faits dont elle parle, c'est essentiellement l'histoire du procès qui va tomber sur le dos d'André Ardelais à la fin de sa vie, à propos de Lourdes-Lantes, puisqu'elle fait allusion un moment à Régine Desforges. On a vu que c'était Pauvert qui avait publié la première version sous le pseudonyme de Steve Masson. Et puis à un moment, Régine Desforges va demander, d'ailleurs Ardelais n'était même pas au courant, c'est un accord entre les deux éditeurs, de republier dans une édition de luxe illustrée, un tout petit tirage de 200 ou 300 exemplaires, de Lourdes-Lantes. Mais là, c'est signé du nom d'André Ardelais. Et immédiatement, la justice réagit. Donc, vous l'avez entendu, elle dit « c'est l'époque Pompidou » et ça ne rigole pas avec la question des bonnes mœurs.
Outrage aux bonnes mœurs.
Outrage aux bonnes mœurs.
C'est la brigade mondaine. Hein.
La brigade mondaine intervient. Elle aurait pu lui tomber dessus pour bien d'autres choses, mais elle tombe dessus pour ce roman que tout le monde avait déjà lu. Et donc, là, ça va devenir une épreuve parce que finalement, ils vont être condamnés. André Ardelais va être condamné et Régine Desforges aussi. Et c'est quelque chose qui lui reste en travers de la gorge, qui va assombrir les dernières années de sa vie.
Alors, tu parlais de Fallet. René Fallet fait circuler une pétition de soutien à André Ardelais. Et au procès, il y a un témoignage de Julien Gracq, mais...
aussi du comte Murat.
Du comte Murat, mais il semble bien qu'on les ait quelque peu empêchés de s'exprimer comme ils l'entendaient. Donc, ce procès avait vraiment pour but la condamnation d'Ardelais et la mise au pilon de son texte.
Voilà, Ardelet dit lui-même, « Gracq et le prince Murat étaient venus me défendre, on ne leur a pas laissé toute liberté dans leurs propos, car chaque tentative pour venir en aide à la poésie, voilà. Le débat était pourtant la société contre un poète, était aussitôt stoppé. Voilà. » Voilà. Donc, il va juste publier encore quelques textes, mais il tombe vite malade. En fait, il est assez gravement malade. Il le dit, d'ailleurs, c'est « Donnez-moi le temps », c'est quelque chose qui est publié dans cette période-là. Et il dit « Il me faut aller vite, très vite. Ce temps qui me file entre les mains, je ne puis l'épingler qu'avec des mots de code. Voilà. » Voilà. Et donc, il va s'éteindre après avoir écrit encore quelques textes, et fait paraître, évidemment, La promenade imaginaire. Enfin, il ne l'a pas fait paraître, non. Il corrige les épreuves, et ça paraît juste après sa mort. Voilà, donc il meurt en 74, il est enterré, comme il l'avait souhaité, à Saint-Méry, le quartier de Nicolas Flamel, le quartier du Moyen-Âge qui le fascinait aussi.
Et il renoue quasi post-mortem avec un de ses amours anciens, l'ésotérisme.
Absolument. On va faire une petite pause musicale avant d'entendre « Donnez-moi le temps », Le téléphone magique et Grand vent, trois derniers textes avant de finir cette émission consacrée à André Ardelet.
Donnez-moi le temps, 1973. Je passe une bonne partie de ma vie à construire des fictions, en voici une de plus. Un grand édifice un peu austère, un organisme où sont rassemblés des objets perdus. Chacun de nous y pénètre à son tour et se trouve devant un fonctionnaire qui compulse ses dossiers. Désiré, monsieur, voilà, c'est au sujet du temps perdu. Tiens donc. Je voudrais savoir si on ne vous aurait pas rapporté, par hasard, un bel été de 1927 à la brique, avec des truites plein mon panier. Et puis, pendant que vous y êtes, un Christmas à Brighton, et cette rousse qui tombe embrassée sous le gui. Attendez, comment s'appelait-elle donc? Nous allons voir. Ni encourageant, ni rébarbatif, le gars qui établit d'abord votre état civil, puis s'en va fouiller dans ses fichiers. Il revient les mains vides, navré, comme si cet été, ce Christmas, le concernait autant que vous. Non, je ne vois rien. Cela ne dépend pas que de nous, vous savez. Tandis qu'il se rassied à son bureau, vous éprouvez l'impression de le connaître. Mieux, de le reconnaître comme l'un de vos doubles. La ressemblance s'accentue à chaque seconde, et tout à coup, sans savoir comment, vous vous trouvez à sa place, devant les paperasses étalées, perplexes, écrasées par le poids des insondables archives où le temps perdu de chacun s'est accumulé, tous, sauf le vôtre. Il y a là la flèche immobile tirée par Zénon, le camp du drap d'or. Deux personnages en pourpoint s'abordant dans une auberge, Rimbaud et Verlaine sortant d'un pub londonien. L'ombre à jour d'un feuillage sur une table de jardin, Gavrilo Princip tirant sans répit sur des millions de soldats morts. Alors, vous comprenez que la clé de votre passé ne peut être forgée que par vous-même. Difficilement la sueur au front, nul n'aura déposé à votre intention, ainsi qu'une paire de gants ramassés dans le métro, vos inestimables et dérisoires trésors. Il faut vous mettre à l'œuvre avec vos seules ressources pour récupérer votre bien et surtout lui donner sa valeur définitive.
Les choses ne s'anéantissent pas. Elles entrent dans les compartiments d'une porte à tambour qui nous précède toujours d'une foulée. Le téléphone magique tire de là son principe. Son aspect est celui d'un appareil ordinaire, muni de fils, d'un combiné sur une fourche et d'un cadran. Un cadran un peu plus volumineux et compliqué que celui conçu par les P&T. Voilà tout. On vous livre également une brochure explicative et l'annuaire secret. Comment les inventeurs se sont-ils mis en rapport avec les dames de jadis ? Cela les regarde. Toujours est-il que vous pouvez joindre sur l'heure Iseult, Madame de Montbazon, Aurélia, Alice Ozy, la comtesse de Castiglione, Mrs. Langtree, celle du temps des cerises ou de roses de Picardie, et bien d'autres encore. Votre choix fait, vous composez sur le cadran la formule correspondante fournie par l'annuaire, et la voix, sa voix, éclot à votre oreille. Allô ? Ici la Fornarine. Bien sûr, très cher, seulement je suis un peu bousculé ces jours-ci. Attendez. Que diriez-vous du vendredi 27 chez vous, vers minuit ? Parfait. En costume d'époque ? Mais naturellement, voyons. Et le vendredi 27, elle sonne à votre garçonnière. Hélas, il faut s'inscrire des années à l'avance pour obtenir la ligne magique et le prix de l'abonnement est si élevé que seuls les milliardaires peuvent s'offrir ce luxe. Toutefois, chaque fin d'année, le Grand Conseil tire 10 noms au sort. Les élus qui auront droit à un appel gratuit, unique. C'est ainsi que la chance m'échut et que je choisis Josie, aperçue autrefois en tenue de basket. Belle, autant qu'une source, par le ciseau d'un maître. Nous n'avions jamais échangé une parole, et en revenant au vestiaire, elle m'avait tiré la langue. Ses premiers mots, quand j'eus la communication, furent « Ah, tu en as mis un temps !» Comme si quelque rendez-vous avait été convenu entre nous depuis toujours. Elle accourut aussitôt, telle qu'en ses 18 ans. Malgré le temps écoulé, un quart de siècle ou plus, elle n'avait rien oublié. La couleur de cette matinée, une branche de lilas et l'ombre de cette branche sur le sol. Le genou écorché de son amie Sylviane, la langue tirée, les vêtements que je portais, son propre désir. Le grillage entre nous, 1000 autres détails. Et cela m'expliqua-t-elle parce qu'elle se trouvait encore là-bas, bien que dans mes bras, moi l'étreignant et cependant toujours debout, ébloui de l'autre côté de la clôture. Elle n'avait même pas à se souvenir, elle décrivait ce qui demeurait sous ses yeux. « Tu n'as pas changé non plus, m'affirma-t-elle. Mais je n'ai pas vérifié dans ma glace. » Tandis que nous nous aimions, dans quelle ville inconnue, dans quelle maison de cette ville dormait sa forme ? Sa forme de femme presque vieille, lasse, en tout cas méconnaissable. J'ai supplié, offert tout ce que je possédais. Le Grand Conseil s'est montré inflexible, une seule fois, telle est la règle. Mais Josie, dont je n'ai su que le prénom et le miel, si quelqu'un d'autre l'appelle, se réveille, quitte sa peau d'année morte et va le rejoindre. J'imagine qu'elle lui dit qu'il n'a pas changé non plus. Au fait, ce quelqu'un, c'est peut-être moi, dans une case différente de la porte à tambour. Depuis, mes amis estiment que j'ai beaucoup vieilli, très vite.
Grand vent, pour Gilles Vigneault. Au préalable, le vent a posté ses frondeurs d'élite dans les encoignures. Ça débute insidieusement, sans presque que vous y ayez pris garde, plongé que vous étiez dans un bon bouquin. des poussées, des craquements, de jointures dans la bâtisse. Soudain, l'attaque de la horde transparente se déchaîne, tournoie, ébouriffe tout ce qui résiste. Le zinc plat tient bon, mais les premières tuiles commencent à dégringoler. Un répit trompeur avant le diable et son train. Bientôt, les biscayens, des frondeurs grêlent, ricochent. Ils viennent de faire mouche tout près. Et une girouette, une! Jamais on n'aurait cru que tant de surface outragée pouvait se transformer en caisse de résonance. Bang, bang, bang. Une cheminée maintenant, en titubant. Non, je préfère en tébutant. Chacun son goût. Dans l'extérieur, vacarme me déséquilibre. Je m'en vais soulever craintivement un pan de rideau. Je vois passer successivement dans les airs plusieurs montgolfières en pleine divagation, une bergère à carlifourchon sur sa houlette, un chalet de nécessité avec, je suppose, sa tenancière et divers clients. Ce spectacle ne me rassure pas. Tout à coup, une avalanche s'écroule dans ma cheminée. Lorsque j'en relève le tablier, je ne découvre que de menus débris à peine plus conséquents que des excréments de souris. Me ferait-on des farces? Non. Dehors, ça cogne, mugit, révolte de plus belle. Quelle gigue, quelle danse de la Saint-Didon sur les hauts plateaux de l'air libre. Ah, le cul de Madeleine, l'odeur de la grande Gisèle quand elle s'était bien démerdée. Mais tout cela, c'était avant le déluge. Parfois, de son mufle, un grand fauve froid s'en vient renifler derrière ma porte. Au loin, des appareils d'alarme sirènent faiblement. Vous aimiez trop le bal? Les 36 demoiselles, le Beaujolais nouveau, toujours arrivées jusqu'à votre verre. Une salutaire catastrophe vous apprendra à vivre. Comme je souhaiterais mes bons, mes longs sommeils d'enfance en marmotté. Et le réveil dans un pays de calme et de courtoisie champêtre où, malgré la distance, par-delà le bois, on entend clairement deux hommes qui se parlent d'une vigne à l'autre. Ainsi s'achève cette seconde émission consacrée à André Ardelais, avec émission qui avait été préparée par Christian Boisson, Patrick Vendrin et moi-même, et avec l'amicale participation d'Yves Flanqué et de Joël Jacobi pour la première fois à notre antenne. Vous pouvez contacter la BIP pour la faire venir sur tous vos lieux de paresse, de loisirs et de travail. En envoyant des mails à la radio, je vais remercier tous les musiciens à qui nous avons sans vergogne emprunté leur beau titre. Ella Fitzgerald tout d'abord, Boris Vian pour le tango des bouchers, le joyeux tango des bouchers, Miles Davis pour Kind of Blue, Didier Malherbe qu'on entend encore une fois jouer dans ce magnifique trio de Hadouk, et Avishai Cohen. Voilà, ainsi s'achève donc cette émission. Je crois que notre ami Patrick a encore une annonce à nous faire.
Deux fois n'est pas coutume. Et donc, à partir de demain, 19, et ça continue le 20 et le 21, à 20h30 à La Baignoire, le nouveau spectacle de théâtre musical de Michel Arbatz, Villon la vie. Donc, à partir du testament de François Villon, et Michel sera accompagné d'Olivier Roman Garcia aux guitares, bouzouki, percussions. Et je réactive aussi, vous pouvez inviter la Brigade Poétique chez vous, avec des amis. Un numéro, le 04 67 22 15 42, ou sur le site de michelarbatz.com.